Je remercie la Fondation Temps Nouveau d'avoir invité UCD Info à s'exprimer. Alors effectivement, je suis qu'un citoyen qui, à un moment donné, a décidé de s'exprimer dans le débat public suite à la lecture d'un email, donc une alerte réseau, je vais dire, de Loïc Dachary, qui est un membre du conseil d'administration de la Fondation pour le logiciel libre, et qui s'inquiétait d'une directive européenne, la directive EUCD, pour European Copyright Directive. Et cette directive posait un problème aux auteurs de logiciels libres et plus largement au public. Et je l'ai lu, j'ai lu des analyses. Et puis, moi aussi, j'ai été gagné par ce sentiment d'inquiétude. Et j'ai décidé donc de participer à l'initiative EUCD Info dès sa création. Et ça fait maintenant plus d'un an et demi qu'on a un petit peu investi le débat public. On est un petit peu rentré dans le débat public, on n'était pas invité, pour essayer d'expliquer les problématiques qu'elle pose. Au-delà de cette directive que je vais traiter à la fin et qui a été un petit peu évoquée par Christophe, je vais parler de la LCEN, donc la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Je vais parler de la réforme de la loi informatique et liberté, qui toutes deux transposent aussi des directives européennes, puisque au cours de UCD Info, j'ai pu prendre conscience qu'effectivement, il fallait faire attention à ce qui se passait au niveau européen et pas regarder les problématiques franco-françaises. Et même au-delà, il fallait regarder ce qui se passe au niveau mondial, puisque l'EUCD découle d'un traité OMPI et que, par exemple, actuellement, il y a un autre traité OMPI qui est en cours de rédaction et qui va être signé et qu'il faut faire attention à ce qui se passe à l'OMPI. Donc l'OMPI, c'est l'Organisation mondiale pour la propriété intellectuelle. Sur la propriété intellectuelle. Il faut faire attention à ce qui se passe à l'OMPI, parce qu'ensuite, ça impose à l'Europe, qui signe ces traités, de créer une directive, et puis ensuite, la directive, ça impose aux États membres de transposer la directive, et c'est ce qui se passe actuellement pour l'EUCD. Donc, je vais commencer par la LCEN, donc la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Alors, ce que je vais dire, c'est ce que j'ai pu percevoir, d'une part, des débats parlementaires. J'invite tous les citoyens à lire les analyses, les rapports d'analyse des débats parlementaires, parce que ça permet de comprendre ce qui s'y passe. Et parfois, on lit des choses qui sont très, très étonnantes. Puis c'est aussi le croisement d'informations avec d'autres personnes qui se sont impliquées dans le débat pour la loi sur la confiance sur l'économie numérique. Je pense notamment à la Ligue au débit et puis à d'autres associations qui se battent aussi pour la défense des libertés individuelles et droits fondamentaux des internautes, commence à être quand même un petit peu mise à mal en ce moment, comme je vais essayer de vous le faire comprendre, même si je pense que, vu tout ce qu'on dit depuis le début, on voit bien qu'il y a une sorte d'offensive généralisée poussée par des lobbies qui ne sont pas forcément représentatifs de l'intérêt des auteurs, des artistes et même des petits producteurs. Alors la loi pour la confiance sur l'économie numérique, elle transpose une directive européenne sur le commerce électronique. Faut savoir que bien qu'elle transpose une directive sur le commerce électronique, ça a surtout été l'occasion, pour certains lobbies, de détourner le débat du commerce électronique sur la propriété intellectuelle. Je crois que c'était Christian Paul qui l'avait fait justement remarquer en disant « On a un rendez-vous législatif, donc la transposition de la directive EUCD, la loi sur la confiance, pour la confiance sur l'économie numérique, et pas le moment de débattre de ça. » Ça n'a pas empêché que c'est venu un petit peu polluer le débat et qu'on a laissé passer d'autres disposition parce qu'on se concentrait sur des problématiques qui n'avaient pas lieu d'être au regard de la directive. Alors, je vais restituer un petit peu le contexte en trois points. Le premier point, c'est donc l'omniprésence de ce lobby des industries culturelles qui est connu sous le nom de CLIC, donc c'est le comité de liaison des industries culturelles qui regroupe donc toutes les sociétés de gestion collective et de perception. Donc ça va de la SACEM à la SACD, il y a l'ADEMI, il y a la SPPF et des syndicats de producteurs, d'artistes, il y a le SNEP. Alors, il faut savoir que le CLIC, c'est une voix qui se présente comme unifiée, mais ce n'est pas aussi unifié que ça, puisque, bon, il y a quand même des rumeurs qui tournent, et qu'à l'intérieur, ça ne se passe pas forcément bien quand ils doivent prendre des positions, et surtout que la LCEN et, dans une moindre mesure, la réforme sur la loi informatique et liberté, qui comporte une disposition qui, on va le voir, donne certains droits aux sociétés de gestion collective, étaient les parties que je qualifierais de répressives. Avec la transposition de la directive EUCD, on passe sur la partie économique. Et évidemment, là, ça ne se passe plus pareil, puisque chacun a ses intérêts économiques à défendre, les producteurs n'ayant pas les mêmes intérêts que les artistes, les producteurs étant fortement attachés à leurs droits exclusifs, les artistes étant, comme on l'a vu, plus sur des solutions mutualistes. Donc, sur la transposition de l'EUCD, il y aura moins, à mon avis, de sorties du clic. On verra ce qu'il en est. Alors, comme je l'ai dit, les dispositions les plus contestées n'avaient rien à voir avec la directive. Et en fait, ce lobby a cherché à créer, à instaurer une justice privée. C'est-à-dire qu'on a cherché à mettre les fournisseurs d'accès aux ordres de ces industries, mais pas que de celles-là, aux ordres en fait des grands groupes du secteur privé, et à bypasser le juge, c'est-à-dire à ne pas prendre le temps de rendre la justice, parce que sur Internet, c'était l'argument qui était souvent avancé, sur Internet ça va très vite, donc la justice doit aller aussi très vite, mais si on prend le temps de passer par la justice, ça sera trop lent, donc vaut mieux passer directement par le FAI, ou l'hébergeur, et lui demander soit de couper l'accès au contenu, soit de retirer le contenu du site concerné qui proposera un contenu illicite. Alors il y a aussi l'exemple, c'est cette demande de censure aux ordres, et puis de recherche proactive en fait de contenu illicite, s'illustre dans un amendement qui avait été proposé par Madame de Panafieux, et qui consistait à mettre en place une obligation de surveillance des contenus à la fin de recherche de violation du droit d'auteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il aurait fallu qu'un hébergeur qui peut héberger des milliers de sites passe son temps à les regarder sur ces sites-là s'il y avait une violation du droit d'auteur. Quand on sait les difficultés que rencontrent les juges eux-mêmes pour trancher des débats sur des infractions au droit d'auteur, on imagine la difficulté qu'aurait eu un hébergeur dont ce n'est pas le métier, et puis il n'a pas ce rôle-là. Lui, il est hébergeur. Si le juge lui demande de retirer un contenu, il le retire. Si c'est une personne privée, ben il lui dit « Allez voir le juge, je vais le retirer. » Alors, ça, c'était donc l'omniprésence du lobby des industries culturelles qui, effectivement, a posé un problème, parce qu'il y a d'autres dispositions que je vais traiter un peu plus tard, si j'ai le temps, qui sont passées et qui sont tout aussi gênantes, notamment pour les droits de la défense. Et puis, ça a été aussi l'occasion, la loi pour la confiance sur l'économie numérique, de se rendre compte d'une certaine méconnaissance de la part de certains élus ou du membre du gouvernement de la réalité d'Internet, la réalité technique, de comment ça se passe, quelle est l'activité d'un hébergeur, quelle est l'activité d'un fournisseur d'accès, comment ils travaillent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire et qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. Alors, c'est gênant dans une certaine mesure, surtout quand on veut rédiger une loi qui a été présentée comme fondatrice pour l'Internet français. Si on veut faire une loi fondatrice pour l'Internet français, il faut comprendre comment fonctionne l'Internet en général, et on serait rendu compte que l'Internet est transfrontalier. Donc faire une loi fondatrice pour l'Internet français, une loi française qui s'applique à Internet soit, mais une loi pour l'Internet français, c'est un peu plus difficile. Donc je reviens sur l'obligation de surveillance des contenus. Un hébergeur, en pratique, il va avoir du mal à contrôler des milliers de sites. Je prends l'exemple de Free, qui a des pages personnelles, des millions de pages personnelles à mon avis. Comment Free peut, de façon proactive, rechercher combien de personnes il va lui falloir pour aller regarder s'il y a une violation de droit d'auteur. Un logiciel ne peut pas le faire. Comme on a dit, la technique ne peut pas substituer un juge. Donc il aurait fallu que Free embauche des centaines de personnes pour regarder toutes les pages et dire « Là, j'ai cru détecter une infraction au droit d'auteur. Qu'est-ce qu'en pense l'avocat de la maison ?» Donc l'avocat se déplaçait, regardait. Ce n'était pas très réaliste. Il y avait une autre disposition qui a été proposée. Donc l'obligation de surveillance des contenus, ça n'a pas été retenu parce que c'était pas possible. Puis c'était contraire à la directive. Et puis une obligation de... on voulait mettre en place un filtrage imposé au FAI aux frontières. Donc on voulait filtrer l'Internet français aux frontières. Donc dire le crime, le délit s'arrête à nos frontières et il ne passera pas. En pratique, c'est un petit peu difficile. Je vais y venir à la Chine. Mais en pratique, c'est difficile, c'est techniquement utopique. Il y a des études qui ont été faites, évidemment proposées par les fournisseurs d'accès qui, on comprend bien, ne voulaient pas mettre en place ce type de système, parce que déjà ça leur a coûté économiquement très cher, et puis parce que c'est pas réaliste, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pendant une heure, le temps que le contenu soit déplacé ailleurs, et puis bah, ça recommence, et donc c'est une course sans fin, une lutte sans fin. Souvent, en fait, la technique, courir après la technique avec la technique, ça ne fait que renforcer l'avance de la première technique, et ainsi de suite. Donc c'est une course sans fin. Et le troisième point, donc il y avait l'omniprésence du lobby, les méconnaissances de l'Internet par certains élus, et puis le troisième point qui, à mon sens, est plus problématique, parce qu'on peut comprendre finalement que des gens qui ont des intérêts économiques cherchent à défendre leurs droits et viennent expliquer aux parlementaires ce qu'il en est, même si des fois c'était un petit peu trop flagrant, dans la mesure où directement dans l'hémicycle, on avait le président de la commission des affaires économiques, M. Ollier, qui expliquait qu'au cours, il avait mangé le midi, il y avait une réunion de midi, alors on ne sait pas s'il a mangé, mais il y avait une réunion de midi avec les industries culturelles, et que il avait décidé de supprimer le caractère de la correspondance, enfin, de la définition du courrier électronique, ce n'était pas utile de préciser qu'un courrier électronique relève de la correspondance privée. C'était une demande donc de l'industrie culturelle, et il dit lui-même, j'ai signé cet amendement, il n'y a pas de problème, voilà. Donc, dans les débats parlementaires, que je vous invite vraiment à lire, on trouve des choses comme ça, on trouve aussi des phrases fantastiques d'une députée qui explique que quand elle ouvre son webmail après une semaine de vacances, elle est inondée de spam xénophobe et raciste. Alors, inondée de spam, ok, de spam xénophobe et raciste, moi, je n'y reçois pas de spam xénophobe et raciste. Je reçois des spams, comme tout le monde. Mais des spams xénophobes, je n'en reçois pas, je ne suis pas inondé. Ou alors que dès qu'elle ouvre son browser, tout d'un coup, il y a plein de pop-up qui apparaissent, donc des petites fenêtres, avec des images pornographiques. Sauf si on va sur un site pornographique, on n'a pas plein de pop-up qui apparaissent avec des images pornographiques. Je ne dis pas qu'elle est allée. Mais c'est une répétition, si vous voulez. C'est une répétition de ce qui est entendu. Et ainsi de suite. Donc, les députés qui n'ont pas une pratique forcément courante d'Internet, et ce n'est pas un problème en soi, mais ils répètent ce qu'on leur dit et ils font des amalgames. Par exemple, le haut débit ne sert qu'à télécharger des contenus protégés par du droit d'auteur et mis à disposition sans autorisation. Le haut débit, ça sert aussi à naviguer plus vite, à recevoir ses mails plus vite et à télécharger des logiciels libres de façon tout à fait légale. Ça sert à plein de choses, le haut débit. Donc c'était une diabolisation de l'Internet et du haut débit qui était en train d'être faite. Et il y avait des députés qui répétaient de but en blanc ce qu'on leur avait dit. Alors, donc, le troisième point, qui à mon sens est plus problématique, c'est donc l'attachement, somme toute, très relatif aux libertés fondamentales quand elles sont mises en œuvre sur Internet. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, Internet est difficile à contrôler, ça va très vite. Il s'est transfrontalier, donc c'est difficile d'appliquer une loi nationale. Ça peut prendre du temps pour retrouver la personne qui a commis le délit. Les preuves du délit peuvent disparaître. Et donc on a tendance à vouloir diminuer la protection des personnes, la liberté individuelle, au profit d'une justice plus rapide, un petit peu expéditive, et puis à transférer des missions de police, comme on va le voir avec la réforme de la loi informatique et liberté, à des acteurs privés. Alors il y a un premier amendement qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. C'est l'amendement de M. Devedjian, qui avait pour objectif de retirer le délai de prescription des infractions de presse. C'est-à-dire que quand vous publiez dans un journal une tribune, au bout de 3 mois, on ne peut plus vous poursuivre via délai de prescription. Monsieur Devedjian a proposé un amendement qui, purement et simplement, vu les termes de l'amendement, il n'y avait plus de prescription de la presse pour les contenus en ligne. Donc on crée un décalage entre la publication en ligne et la publication sur la presse. Il y a des députés, donc il y a une saisine, une double saisine sur la loi pour la confiance numérique, Parti Socialiste, Parti Communiste et Les Verts. Et il y a des députés aussi de la majorité qui ont dit attention, quand on touche au droit de la presse, il faut prendre dans la loi de 1881 qui fonde la liberté de la presse, il faut faire attention à ce qu'on fait. Parce que c'est extrêmement. La liberté de la presse, c'est le fondement d'une société démocratique. Et là, on va un petit peu trop vite, puisque l'amendement est arrivé en fin de débat, si je me souviens bien. Et donc cet amendement a été censuré. Donc il y a eu le retrait dans la définition du courrier électronique du fait que c'était une correspondance privée. Donc là, ça a été clairement présenté émanant directement des industries culturelles. Et le but, c'était qu'on ne confonde pas le courrier, les emails, avec le peer-to-peer. Parce que les producteurs, principalement, avaient une peur, c'était que les échanges peer-to-peer soient considérés comme de la correspondance privée. Le Conseil constitutionnel n'a pas censuré la disposition, il a dit que c'était juste une définition technique qui était donnée, qui ne remettait pas en cause le caractère de la correspondance privée. Donc quand vous envoyez un email à un ami, ça reste, normalement, on verra le cas échéant, mais ça reste de la correspondance privée. Et quand vous faites du peer-to-peer, de toute façon, vous avez le secret des communications. Donc si on vous écoute, ça s'appelle une interception de communication, et il y a une protection qui existe. Donc on ne peut pas vous écouter non plus comme ça. Donc ça, de toute façon, ça résolvait le problème qu'à moitié. Mais bon, il a fait plaisir aux industries culturelles. Ensuite, sur le filtrage. Alors le filtrage, c'est pareil. Il y a la liberté de communication, pas de possibilité d'interception. Quand on bloque une communication, il faut le faire sur ordonnance d'un juge, etc. Ça n'empêche pas que la proposition de filtrage le filtrage en général était qualifié par la Commission européenne d'attentatoire aux libertés fondamentales. Ce qui avait d'ailleurs donné l'occasion à Odebi de faire un beau bandeau rouge où il y avait écrit « Bienvenue en Chine », puisqu'effectivement, les seuls pays qui mettent en place ce type de disposition au filtrage généralisé, c'est la Birmanie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Donc pour le pays fondateur des droits de l'homme, ça posait effectivement un problème. Et puis, il y a eu ce qui a vraiment focalisé le débat, c'était la responsabilité des intermédiaires techniques, donc fournisseurs d'accès et hébergeurs. C'était un peu un saint graal du gouvernement et du législateur, parce que la première fois que ça a été censuré par le Conseil constitutionnel, c'est en 1996, c'était le gouvernement qui le proposait. Ensuite, il y a une tentative en 2000 par un député, ça a été censuré aussi par le Conseil constitutionnel. Et là, c'est passé avec ce qu'on appelle une réserve d'interprétation, puisque à partir du moment où la loi dit, en fait, donc la loi pour la confiance numérique adoptée, dit qu'à partir du moment où un intermédiaire technique on lui a notifié qu'un contenu était illicite, il devait le retirer promptement. Et le Conseil constitutionnel a bien précisé que ce contenu devait être manifestement illicite. Donc, et lors de l'explication de la décision du Conseil constitutionnel, le secrétaire général du Conseil constitutionnel a dit que les contenus manifestement illicites, c'était les contenus pédopornographiques, donc ça c'est une évidence, ça se voit tout de suite, certains contenus racistes. Pourquoi certains contenus racistes? Par exemple, une étude sur le révisionnisme. Ça peut, au premier abord, apparaître comme quelque chose de raciste. Mais c'est une étude scientifique sur le révisionnisme. Donc les sages du Conseil constitutionnel ont mis une réserve d'interprétation qui, normalement, lorsque le juge va être amené à se prononcer, devrait se limiter au contenu vraiment manifestement illicite. Ça n'empêche pas qu'on demande à des acteurs privés de se substituer au juge sur des contenus évidents, ce qu'ils faisaient déjà. Donc la loi entérine en fait ce qui se passait déjà, c'est-à-dire que si vous préveniez quelqu'un qu'il y avait un contenu pédopornographique, une entreprise responsable, elle va l'enlever. Sauf que le problème, c'est que l'enlever, ça enlève une preuve. Donc ça empêche la police de faire son travail, et ça permet peut-être d'empêcher le démantèlement d'un réseau. Donc c'est peut-être parfois contre-productif. Je pense qu'il vaut mieux prévenir la police, leur demander ce qu'il faut faire, et eux peut-être mettre en place des systèmes d'écoute, etc., pour démanteler le réseau. Et puis il y a un point, donc ça c'était les points... Alors évidemment, la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel sur la LCEN a fait hurler le SNEP, c'est-à-dire le syndicat national de l'édition phonographique, qui dit « Mais un contenu sur un réseau peer-to-peer où il y a écrit Britney Spears, c'est évident que c'est un contenu manifestement illicite. » Et pourtant, le secrétaire général a dit « Mais non, on ne peut pas, comme la propriété intellectuelle, les infractions au code de propriété intellectuelle ne sont pas des infractions qui permettent de dire que c'est manifestement illicite. » Alors le SNEP a fait un beau communiqué de presse où il faisait un peu la morale au Conseil constitutionnel pour dire, écoutez, franchement, ça va pas du tout ce que vous dites. Mais il y a des choses qui sont passées à l'as. Il y a l'extension du délit de fraude informatique. Ça a été une extension, maintenant, à la fourniture, à la détention de moyens. C'est-à-dire que vous détenez un logiciel qui permet de faire de la fraude informatique et vous vous retrouvez avec la même peine que quelqu'un qui commet une fraude informatique. Je ne l'ai pas pris, mais j'ai dans mon sac un petit article d'un magazine, sauf si vous avez un motif légitime. Donc, si vous avez un motif légitime pour détenir, alors c'est toute application, programme ou données conçues ou spécialement adaptées pour commettre l'un des délits à je ne sais plus quel article, c'est les articles de fraude informatique et de maintenance dans des systèmes informatisés. Si vous avez donc un article qui décrit comment détecter des trous de sécurité dans un logiciel et que vous n'avez pas de motif légitime pour le détenir, et que si vous les accumulez, en fait, vous êtes coupable de détention, vous pouvez être coupable de détention, si le motif légitime n'est pas reconnu par le juge, de détention d'un élément permettant la fraude informatique. Donc là, on crée vraiment un délit de détention. Vous n'avez pas commis l'acte de fraude informatique, mais vous avez des éléments qui vous permettraient de commettre cet acte. Donc ça peut poser un problème, même si tout le monde dit que sur la recherche, il n'y aura pas de problème, que les spécialistes en sécurité informatique n'auront pas de problème. Il n'empêche qu'un officier supérieur de l'armée de terre qui travaille dans un laboratoire de virologie qui forme 3500 militaires par an a tiré à boulet rouge sur la LCEN. C'était le titre d'un article. Un officier supérieur tire à boulet rouge sur la LCEN en disant rien n'empêche, c'est ubuesque, dans le monde normal, rien n'empêche quelqu'un de dire cette voiture a un problème de frein, elle est extrêmement dangereuse. Dans le monde logiciel, vous ne pouvez pas le dire. Vous pouvez le dire, mais vous risquez éventuellement d'être attaqué par la société éditrice qui va dire que vous a dévoilé un trou de sécurité, que ce trou de sécurité peut être exploité par des personnes mal intentionnées et que dès lors, vous venez de divulguer, de fournir un moyen, une information qui permet de commettre une fraude informatique. Donc la jurisprudence dira ce qu'est un motif légitime. On peut espérer que la recherche, la sécurité informatique... Et donc le militaire, ça on doit en être sûr quand même, n'auront pas de problème avec cet article. Mais le délit de détention, c'est quand même intéressant, parce que ça évite d'avoir à prouver que vous avez fait la fraude informatique. Vous détenez, on avait de fortes suspicions que c'est vous qui l'avez fait, ça va être plus facile de vous accuser d'un délit qui sera le délit de détention de matériel, on va dire, permettant la fraude informatique. Et puis il y a eu un article qui est passé sur la cryptographie, donc la cryptologie, parce que ça s'appelait cryptologie. Donc tout comme la communication par voie électronique est libre, sauf, après je vais préciser qu'il y a des réserves sur cette liberté, la cryptologie est libre. Mais si vous utilisez un moyen de cryptologie pour commettre un délit ou un crime, vous voyez votre peine augmenter. C'est-à-dire que si vous risquez 30 ans de prison, vous risquez perpétuité. Si vous risquez 20 ans de prison, vous prenez 30 ans de prison. 15 ans de prison, enfin, je ne me rappelle plus. Si vous prenez un délit qui vaut moins de 3 ans, ça double votre peine. Donc vous risquez 6 ans ou plus. Sauf si vous donnez les clés qui permettent de déchiffrer les messages que vous avez envoyés. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? En France, vous pouvez refuser de donner des preuves qui vous permettraient qu'on vous inculpe. Là, on vous dit, vous pouvez toujours, mais si vous ne le faites pas, votre peine, elle est doublée. C'est une bonne incitation pour, effectivement, donner des éléments qui vont permettre de trouver peut-être d'autres délits, etc. Sinon, votre peine est doublée. Par principe, on suppose que dans vos mails, vous avez quelque chose peut-être qui... Vous êtes déjà accusé d'un délit, de toute façon, mais peut-être que vous avez commis d'autres délits, comme on ne le sait pas vraiment, on double votre peine. Voilà. Donc ça, c'est un problème de droit de la défense, à mon sens. Je ne suis pas juriste, hein, mais j'ai dû me plonger quand même un petit peu dedans depuis un an et demi. C'est quelque chose qui est passé complètement là, parce qu'il n'y a pas eu de débat là-dessus, parce qu'effectivement, on se concentrait sur les problématiques de responsabilité des intermédiaires techniques, etc., etc. Donc la loi pour la confiance numérique, je dirais que c'est une bonne introduction à ce qui va se passer sur le projet de loi droit d'auteur et droit voisin, puisque là, c'est spécifiquement concentré sur les problématiques de droit d'auteur et de droit voisin, et que là, les producteurs, les artistes, tout le monde va pouvoir s'exprimer sur ce sujet-là sans aucun problème, parce que la directive est faite pour ça. Un petit peu plus tard, on a vu arriver la réforme de la loi informatique et liberté. Alors, je rappelle que la loi informatique et liberté a été adoptée en 1978, suite à la prise de connaissance par le public d'un projet qui s'appelait Safari, et le nom est très significatif. Et ce projet visait à mettre un identifiant unique à tous les citoyens pour permettre un croisement de tous les fichiers de l'État afin de pouvoir avoir le plus d'informations possible. Ça a fait un tel... je crois que le Monde avait titré le Safari, l'État lance la chasse aux citoyens ou quelque chose comme ça. Donc ça avait fait un tollé à l'époque. On avait eu la loi de 78 qui introduisait la CNIL, qui est une autorité indépendante et qui examine les traitements automatisés qui se permettent de stocker des informations, des données personnelles des citoyens. La réforme de la loi de 78 transpose aussi une directive européenne, c'est la directive 95-46-CE, donc votée en 1995, et ça a été... on aurait pu soit ne pas toucher la loi de 78 parce qu'on estimait qu'on avait transposé la directive par avance, puisque la France était en avance sur ces problématiques-là de protection des données personnelles, soit un moyen de renforcer la protection des personnes. Et au contraire, ça a été un moyen de détricoter la loi de 78 pour permettre notamment aux grandes entreprises de pouvoir traiter un petit peu plus facilement les données, les informations personnelles des citoyens. Alors, le premier point, c'est qu'on s'est rendu compte que la CNIL n'avait pas de moyens pour travailler. Alors, on aurait pu essayer de renforcer ses moyens. Non, on a décidé que puisqu'elle n'avait pas de moyens, on allait sous-traiter son travail aux employés des entreprises qu'elle devait contrôler. Donc c'est pas mal. La garantie d'indépendance, elle saute. Alors on crée un correspondant. C'est un correspondant, c'est-à-dire qu'il y aura un salarié dans les grandes entreprises qui sera le correspondant auprès de la CNIL. Et à partir du moment où ce correspondant, il y a plus les obligations de déclaration de fichiers sont allégées, ça devient beaucoup plus simple, et on peut créer plus de fichiers. Il y avait un débat qui était très intéressant de savoir s'il fallait protéger ce salarié. Dans les débats parlementaires, on le voit apparaître. Est-ce qu'il faut protéger le salarié qui va être le correspondant de la CNIL pour éviter que s'il subit des pressions de son patron qui dit « Mais si, si, vas-y, on va croiser ces données-là, c'est super, ça va me permettre de faire un meilleur ciblage », et qui dit « Non, moi, je veux pas, est-ce que, comme un délégué syndical, on peut le protéger ?» Et il n'a pas été protégé, donc c'est quelqu'un qui va être nommé, qui pourra subir les pressions de son patron. Espérons qu'il aura une bonne éthique, ce salarié, qui n'hésitera pas à dénoncer les problématiques qui pourraient se poser à lui. Ensuite, l'avis de la CNIL devient purement consultatif pour certains fichiers traitant des données sensibles. Alors, par données sensibles, c'est les données sur votre origine ethnique, politique, opinion religieuse, etc., etc. Et jusqu'à présent, l'avis de la CNIL était imposé au Conseil d'État de le respecter. Le Conseil d'État, maintenant, peut ne plus respecter l'avis de la CNIL en cas de traitement de données sensibles lorsque ces traitements intéressent la sécurité publique, la défense nationale, enfin que c'est les traitements les plus sensibles, justement. Donc concrètement, ça veut dire quoi? C'est qu'on peut prévoir qu'il y ait une case à cocher avec écrit musulman ou origine maghrébine dans certains fichiers des services secrets. Comme ça, on va pouvoir traiter. Alors, ça peut faire peur parce que comme maintenant, on a des moyens de traitement qui sont beaucoup plus grands que ceux qu'on avait il y a une cinquantaine d'années, on imagine, tout ça va être stocké. Hein. On imagine ce qu'on pourrait... Je le souhaite pas, mais si jamais il y avait une dérive totalitaire ou dictatoriale, qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qui pourrait être fait de toutes ces données stockées? Donc il faut espérer qu'on ne va pas non plus trop abuser de cette possibilité de passer outre l'avis de la CNIL sur les données sensibles liées à la sécurité publique et à la défense nationale. Et enfin, donc là c'est une disposition spéciale SACEM, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans les débats parlementaires. C'est écrit dans les débats parlementaires, je n'invente rien. Autorisation de créer des casiers judiciaires privés pour les sociétés de gestion collective. C'est-à-dire qu'on a autorisé les sociétés de gestion collective à faire du traitement automatisé d'infractions, de condamnations et de mesures de sûreté, ce qui veut dire qu'on les autorise à faire ce qui jusqu'à présent n'était autorisé qu'aux services de police, aux institutions judiciaires et à certaines personnes morales exerçant une mission de service public. Donc les sociétés de gestion collective n'exercent pas une mission de service public. Et il faut bien comprendre que là, on est en train de transférer une mission régalienne de police et de justice à des personnes privées. Les sociétés de gestion collective sont des sociétés civiles. Donc, ça pose vraiment un problème. Alors, c'est soumis à autorisation de la CNIL. Soit. Mais vu que le président de la CNIL, c'était le rapporteur au Sénat, monsieur Alex Turc, qui s'appelle, le rapporteur au Sénat sur la loi informatique et liberté, c'est lui qui a proposé l'amendement qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Je pense qu'il faut une certaine vigilance. Son amendement visait à autoriser les traitements automatisés d'infractions aux personnes morales luttant contre la fraude dans des conditions précisées par une loi ultérieure. Donc, on vous autorise à faire ça, on verra après comment. Donc, le commissaire de la CNIL était aussi le rapporteur. Il y avait un commissaire de la CNIL qui était le rapporteur à l'Assemblée nationale. C'est lui qui a proposé l'amendement qui autorise les sociétés de gestion collective à faire du traitement automatisé d'infraction. Donc, c'est les gens de la CNIL qui proposent ce que nous, on estime, association, initiative, ce qu'on estime potentiellement dangereux pour la liberté fondamentale. Donc, comme c'est la CNIL qui va autoriser le traitement, normalement, elle ne peut pas le faire. Parce que normalement, ce que cherche à obtenir la SACEM, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle de la recherche proactive d'infraction. C'est-à-dire de détecter des infractions connues ou encore inconnues, de détecter des infractions en cours ou encore inconnues à l'aide de techniques spéciales. Ces techniques spéciales sont par exemple des sondes logicielles, des croisements de bases de données ou des agents sous couverture. Donc l'idée, et c'était déjà ce qu'avait essayé de faire la SACEM et la CNIL l'avait retoqué justement parce qu'il y avait cette interdiction pour des personnes privées, morales de droit privé, de faire ce type de traitement, c'est de détecter, de manipuler les adresses IP qui sont des données directement, indirectement nominatives et de... Donc, telle adresse IP détient tel fichier, ces fichiers sont protégés par le droit d'auteur, je viens de détecter une infraction de contrefaçon, je vais contacter le FAI ou la personne concernée, on ne sait pas trop comment, pour lui signaler qu'elle commet une infraction et je veux qu'elle retire ses fichiers. Ça avait été refusé, il y a un amendement maintenant qui l'autorise, qui aurait dû les autoriser, mais jusqu'à présent, la recherche proactive d'infraction, c'est officier de police judiciaire sous contrôle d'un juge d'instruction. Donc si la CNIL autorise ce type de traitement, il y a une différence entre les infractions supposées et les infractions constatées. Là, on est au stade de l'infraction supposée. Je me dépêche. Donc là, alors, ça, c'était la réforme de la loi informatique et liberté qui va demander... Maintenant, il faut être vigilant sur ce que va autoriser la CNIL et sur les traitements sur lesquels son avis consultatif ne sera pas suivi. Et puis, on arrive à l'EUCD. Donc là, c'est, je pourrais en parler des heures, mais je vais être beaucoup plus bref. C'est-à-dire que c'est une directive européenne qui a pour objectif d'harmoniser le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information. Le projet de loi a été présenté en fin d'année 2003 et son examen est prévu pour à la fin ou début d'année. Concrètement, l'objectif, c'est de... Alors, c'est une directive qui fait plein de choses. Je vais me concentrer sur les problématiques que nous, on a sur lesquelles on travaille. C'est protéger juridiquement les technologies comme TCPA ou plus simplement des dispositifs anti-copie. Donc, c'est qu'on vous impose un dispositif, un matériel, un logiciel. Vous ne pouvez pas essayer de passer outre le contrôle qu'on va mettre en place, vous interdisant, par exemple, la copie ou vous interdisant de faire plus de 10 transferts vers un baladeur MP3. Donc, on crée une protection juridique sur les mesures techniques de protection protégeant les œuvres protégées. Donc, c'est une... vu que la technique ne fonctionne pas, on va la protéger, le droit protéger les œuvres. On a créé des mesures techniques pour protéger le droit protégeant les œuvres. Mais comme il ne fonctionne pas, on crée une loi qui va protéger les mesures techniques, et on peut aller très loin comme ça. Pour y arriver, la seule solution, c'est une protection par le secret, donc c'est la cryptographie garantie par la censure, c'est-à-dire qu'on vous interdit de divulguer une information directement ou indirectement permettant de contourner une mesure technique, donc d'annuler la protection. Ce qui veut dire que, par exemple, là, la FNAC, qui en a un petit peu marre de ne pas pouvoir travailler justement sur des services en ligne et de distribuer des œuvres, a dit explicitement, si vous gravez, téléchargez les œuvres chez nous, elles sont protégées parce que les titulaires de droits, les producteurs en l'occurrence, nous obligent à mettre en place des mesures techniques de protection. Donc, vous téléchargez les œuvres chez nous, vous gravez un CD, ça fait sauter la protection, et ensuite, vous pouvez le transférer dans le baladeur iPod, c'est-à-dire le baladeur d'Apple. Ils viennent de faire connaître directement comment on contourne une mesure technique de protection, un dispositif qui vient de le faire, en l'occurrence le dispositif c'est un graveur. Donc ils viennent de faire connaître directement 5 ans de prison, 300 000 euros d'amende. Et moi qui viens de vous relayer la chose dans communication au public, je risque aussi 3 ans de prison et 500 000 euros d'amende. Mais j'hésite pas. Donc l'objectif des mesures techniques de protection, c'est de permettre le contrôle de l'usage privé. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, une machine va décider à votre place de ce que vous pouvez faire. C'est une contractualisation de l'usage privé. Jusqu'à présent, cet usage était libre, car non prévisible. On ne peut pas savoir ce que vous allez faire d'une œuvre chez vous. C'est une suspicion a priori. Vous êtes jugé par défaut. On se doute que vous allez remettre à distribuer tout ça un peu partout, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc on vous suspecte a priori. Je ne trouve pas que ça soit une bonne façon de traiter le public pour les artistes, les auteurs, les producteurs. C'est la mort annoncée de la copie privée, tout particulièrement dans le cadre des œuvres obtenues via des services en ligne, puisqu'effectivement, comme il a été dit, les œuvres obtenues via téléchargement ne sont pas soumises à exception de copie privée. Donc si vous téléchargez une œuvre, on peut décider de contrôler la copie, même voire l'interdire, la copie privée. Donc ce qu'on veut créer, c'est une société de contrôle, une suspicion a priori, une surveillance généralisée. Et puis on peut oublier le mot personnel, ordinateur personnel, puisqu'on peut prendre le contrôle à distance et que vous ne le contrôlez plus. Puis enfin, c'est la mort annoncée du logiciel libre, comme il l'a été dit aussi par Christophe. C'est-à-dire que les auteurs logiciels libres distribuent leur code source et autorisent la modification et la redistribution. Donc évidemment, à partir du moment où vous pouvez accéder à une œuvre en clair, au code source, vous pouvez récupérer l'œuvre en clair et sortir, vous émanciper de la protection. Donc le code source ouvert sera interdit à partir du moment pour gérer des contenus protégés par le droit d'auteur, en sachant que les auteurs de logiciels libres ont aussi un droit d'auteur, un droit moral de divulgation et qui sont reconnus par l'UNESCO. Donc voilà.
Merci beaucoup, Christophe. Quand tu me parles de code source, et avant de vous inviter à prendre une petite pause, ça me fait repenser à un extrait du code source de la LCN, soit le débat parlementaire à l'Assemblée en deuxième lecture, si je me souviens bien, où un député nous expliquait benoîtement que oui, si les outils, si on doit contrôler l'utilisation des outils de cryptographie et leur export dans certaines conditions, etc. Par contre, leurs codes sources, eux, ne sont absolument pas dangereux et peuvent circuler comme on veut. Quoi. Donc, effectivement, quand on est face à une telle méconnaissance, il est difficile de légiférer correctement. Bon, je vous invite à prendre 5-10 minutes de pause et on revient pour la table ronde.